Préserver, restaurer, conserver le patrimoine de nos terroirs. Une émission de la Fondation du patrimoine, présentée par Bernard Cassanier et Olivier Seb.
Bonjour Eric.
Bonjour Bernard.
Enfin les retrouvailles continuent.
Et très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui.
Voilà. On va essayer de passer entre les gouttes quand même.
Oui, on devrait pouvoir y arriver.
Aujourd'hui, on va aller se promener dans le Lot, toujours dans le Quercy, puisqu'on était la semaine dernière dans le Quercy. Et on va aller revisiter la maison André Breton à Saint-Cirq-la-Popie. Donc aujourd'hui, nous mettons cette maison à l'honneur. On l'appelle aussi la maison, c'est une des maisons des illustres, elle est appelée comme ça. À l'honneur d'André Breton, cette demeure atypique où le poète et écrivain surréaliste a pris racine un jour qu'il est venu là et qu'il est tombé amoureux de cette contrée. Alors elle est nichée sur les hauteurs de Saint-Cyr-la-Popie, et c'est le paradis des artistes du XXe siècle, et fut élu village préféré des Français en 2012.
Oui, je m'en souviens très bien.
En effet, outre son cadre paysager exceptionnel et son patrimoine architectural remarquable, Saint-Cyr-la-Popie est également connu pour avoir été un haut lieu intellectuel et artistique. Et ce notamment parce qu'en 1951, André Breton acquiert l'une des plus anciennes maisons de cette cité historique, dont le corps de logis et la tour datent des XIIe et XIIIe siècles. Il en a fait sa résidence d'été et y reçoit ses complices artistes et écrivains.
Alors, il faut qu'on présente peut-être un peu André Breton, parce que ça va paraître évident pour les amateurs, les amoureux de poésie.
Ça serait surréaliste qu'on ne le dise
voilà,
pas.
Voilà, et notamment les amateurs, les admirateurs du mouvement surréaliste. Mais bon, sachez qu'André Breton est évidemment un poète et écrivain français, ça je pense que la plupart des gens le savent. Il est né à Tinchebray dans l'Orne le 19 février 1896 et il est mort à Paris le 28 septembre 1966. Il était le fils unique du gendarme Louis-Justin Breton. Il était issu de la petite bourgeoisie catholique. Il va passer son enfance à Pantin, en Seine-Saint-Denis, dans la banlieue nord-est de Paris. Ses livres les plus connus sont Nadja, L'amour fou, et puis bien sûr les différents manifestes du surréalisme, dont il sera, quelque temps après, désigné comme le pape. C'était le pape du surréalisme. Et son rôle de chef de file du mouvement surréaliste, son œuvre critique et théorique pour l'écriture et les arts plastiques, font d'André Breton une figure majeure de l'art et de la littérature française du XXe siècle, Bernard.
Et oui, et puis on va parler un peu de sa vie, si vous le voulez bien, Eric. Alors, André Breton est destiné à la médecine, à laquelle il consacre ses études, dès 1913. C'est dans un manuel des docteurs Emmanuel Régis et Angelo Esnard que Breton découvre ce que l'on nomme alors la psychanalyse de Sigmund Freud, bien entendu. Lors de l'été 1916, il est affecté à sa demande au centre de neuropsychiatrie à Saint-Dizier, dans les Vosges bien sûr, que dirige un ancien assistant du docteur Jean-Martin Charcot, en contact direct avec des malades atteints de psychopathologie. Il refuse de voir dans la folie seulement un déficit mental, mais plutôt une capacité à la création. Dérèglement des sens, pas des mœurs, c'est dérèglement des sens, pathologie physique, pathophysique et inconscience des influences majeures de Breton sont déjà là. Admiratif des œuvres des poètes tels que Paul Valéry ou Mallarmé, André Breton se tourne très tôt, très jeune, vers la poésie. En dehors de ses études de médecine, il fréquente Guillaume Apollinaire, Aragon bien sûr, ou encore Paul Éluard, et s'affirme comme le créateur ou le théoricien du mouvement surréaliste.
Alors avec Philippe Soupeau et Louis Aragon qu'il avait d'ailleurs rencontré pendant la Première Guerre mondiale, et tous les deux se destinaient à la médecine, c'est comme ça qu'ils se sont connus en fait. Ils vont fonder donc tous les trois la revue Littérature en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale. La même année, Breton fait paraître les Chants magnétiques composés en mai et juin 1919 avec Philippe Soupeau. Il considère alors ce recueil poétique comme le premier véritable ouvrage surréaliste. Signé par Breton et Soupeau, le livre est le fruit de la méthode que ces derniers nomment l'écriture automatique. C'est un procédé qui consiste à écrire au fil de sa voix intérieure, sans contrôle de l'esprit et encore moins de la pensée. Il s'agit de laisser les mots se présenter d'eux-mêmes au fil de la plume et de l'improbable sans s'arrêter, puis de découvrir ensuite le résultat. Ce principe devient celui de l'école surréaliste que Breton théorise en 1924 dans son fameux manifeste du surréalisme. Tout au long des années 20, Breton s'impose comme le chef de file de ce mouvement et publie notamment Clair de terre et Nadja.
Sa maison de vacances à Saint-Cyr-la-Poupie, donc, dont on parle aujourd'hui, à l'occasion de l'inauguration de la route sans frontières numéro 1 reliant symboliquement Cahors à Figeac en 1950, Breton découvre le village Saint-Cyr-la-Poupie. Il tombe littéralement sous le charme de cette bourgade. À propos de cette rencontre, il écrit plus tard. C'est au terme de la promenade en voiture qui consacrait en juin 1950 l'ouverture de la première route mondiale, seule route de l'esprit, que Saint-Cyr embrasait au feu de Bengale, m'est apparu comme une rose impossible dans la nuit. Alors, à savoir qu'à Saint-Cyr-la-Poupie, l'association qui s'occupe justement avec la commune de la restauration de cette maison s'appelle la Rose Impossible. Cela dut tenir du coup de foudre si je songe que le matin suivant, je revenais dans la tentation de me poser au cœur de cette fleur. Par-delà bien d'autres sites d'Amérique, d'Europe, Saint-Cyr a disposé sur moi du seul enchantement, celui qui fixe à tout jamais. J'ai cessé de me désirer meilleur.
De me désirer ailleurs. Alors les choses ne s'arrêtent pas là, parce que le poète et écrivain surréaliste va s'enticher également de la plus ancienne bâtisse de la commune, l'ancienne auberge des Mariniers, qui fut aussi la maison du peintre Henri Martin, peintre qu'on connaît bien à Toulouse d'ailleurs. Il l'acquiert en 1951, et c'est ainsi que durant 15 étés, de 1950 à 1966, le Lot a pour hôte le chef de file du surréalisme. La maison des Bretons devient un point de ralliement du groupe surréaliste et de nombreux artistes, surréalistes ou proches du mouvement, viennent peindre, jouer, chiner des objets dans les brocantes ou aider les Bretons à restaurer leur bâtisse. Parmi eux, rien moins que Max Ernst, le peintre et sculpteur allemand, Benjamin Perret, un écrivain français aussi très connu à cette époque, Toyen, Marie Serminova dit Toyen, une peintre tchèque, Dorothea Talling, écrivain, peintre et sculptrice américaine, André Breton l'appelait, cette bâtisse, son bureau des rêves.
Après la mort de son épouse Elisa, la maison est transmise à leur fille, laquelle la revend à un couple d'artistes. En 2015, elle est à vendre et après tergiversation de nombreuses de la commune à l'époque, elle l'acquiert quand même et décide de la restaurer pour en faire un centre du surréalisme. En 2018, le ministère de la Culture lui accorde le label Maison des Illustres, créé en 2011, pour distinguer les lieux dont la vocation est de conserver et transmettre la mémoire de femmes et d'hommes qui se sont illustrés dans l'histoire politique, sociale et culturelle de la France.
Une souscription est donc ouverte pour récolter des fonds afin de restaurer ce joyau au cœur du parc naturel régional des Causses du Quercy et en faire un centre culturel dédié au surréalisme. Le projet a notamment bénéficié du soutien de CGPA et de Primagaz France dans le cadre de leur mécénat en faveur de la Fondation du patrimoine, Bernard.
Tout à fait. Alors, on continue à présenter des dossiers, c'est des appels à projets. Il y a beaucoup de travaux à réaliser. Le permis de construire a mis 3 ans à être obtenu. Bien sûr, c'est une maison. Quand c'est un monument historique, c'est très long. Et les travaux devraient commencer au mois de juin. Elle est visitable déjà depuis l'année dernière. On peut y accéder, on peut la visiter. Saint-Cyr-la-Poupie mérite un détour parce que la mairie actuelle, Gérard Miquel, le maire actuel, a fait repaver à l'ancienne toutes les rues et venelles de la ville. Ces travaux sont complètement achevés. Et je crois que là, on a également un très très joli point de vue, vous le savez, Eric, vous y êtes allé.
Ah oui, sur la vallée du Lot, magnifique.
De l'emplacement du château, on a le Lot à nos pieds,
ah oui, c'est super.
400 mètres plus bas, c'est magnifique. Puis, on dirait que le Lot vient buter contre le rocher sur lequel est bâti le château, et puis bien sûr, c'est détourné. Et il y a une vue, c'est sensationnel.
Unique, imprenable.
Je comprends qu'il soit tombé amoureux de ce site. Mais enfin, il faut y vivre là aussi.
Voilà, Saint-Cirq-la-Popie, oui, mais bon, ça vaut le détour, voilà. Effectivement.
Alors, c'est également sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On prend la vallée du Célé depuis Figeac en remontant vers Cahors, et effectivement, ensuite, la vallée du Lot.
Voilà, les raisons ne manquent pas d'aller visiter Saint-Cirq-la-Popie, comme vous pouvez le voir.
Tout à fait. Merci, Eric.
Merci.
À la semaine prochaine.
Au revoir, à bientôt, Bernard.